Bien, c'est un dialogue qui est bien dans la manière de Benoît XVI, c'est-à-dire un dialogue sur l'essentiel, en profondeur et sans esquiver les difficultés. Le véritable écuménisme est un écuménisme d'approfondissement sur le fond, dans des domaines qui peuvent paraître ardus aux non-théologiens. Le dialogue avec les églises orthodoxes et particulièrement avec l'église orthodoxe russe, en dépit de tous les problèmes hérités de l'histoire et des brouillages politiques dus à l'actuelle mésentente entre le monde occidental et Moscou, ce dialogue a progressé et il ne faut pas se laisser arrêter aux apparences. Il faut écouter ce que les orthodoxes eux-mêmes en ont dit. Lorsque est sorti le document du Vatican sur le Concile et les Églises, eh bien, très curieusement, les réactions les plus compréhensives à ce document sont venues de l'Église orthodoxe russe, qui a déclaré qu'elle appréciait la franchise, l'honnêteté et la sincérité, je cite, du document romain. Le métropolite de Smolensk, Kirill, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a indiqué que la déclaration du Saint-Siège, selon laquelle l'Église catholique dispose de la plénitude des moyens de salut, je le cite, « ne portera pas atteinte au dialogue interconfessionnel ». Cette déclaration, a dit Kirill, n'a rien de nouveau. C'est une déclaration honnête, ce qui vaut beaucoup mieux que la prétendue diplomatie ecclésiastique. Il y a des points de friction, mais il y a surtout un point théologique qui doit être approfondi et qui existe vraiment, qui est un vrai problème théologique. La question est, une église chrétienne est universelle par définition. L'église catholique romaine, mais l'église orthodoxe russe aussi. Une église chrétienne est forcément universelle. Donc l'église catholique romaine ne peut pas dire, au-delà de la frontière de la Fédération de Russie, notre mission d'église s'arrête. De même que l'église orthodoxe russe pourrait parfaitement, peut parfaitement, faire de l'apostolat en Europe occidentale si elle le désire. Mais lorsque le document en question dit, il n'est évidemment pas question d'avoir une activité prosélyte, c'est-à-dire indiscrète, rentre dedans, forçant les consciences, si des orthodoxes russes viennent en toute liberté demander pour des raisons personnelles, intellectuelles et spirituelles à être instruits dans le catholicisme romain, on ne va pas leur dire non, bien entendu. Ce serait contraire à la mission d'une église. Ce qui vient interférer, ce sont les affaires politiques. Et puis il y a eu en effet quelques, je dirais, faux pas, comme le fait de nommer un représentant polonais de l'église catholique romaine à Moscou. Sachant la mauvaise entente historique entre les Polonais et les Russes, il est évident que ça n'a pas aidé aux relations. Ce qui a choqué les orthodoxes, c'est que les catholiques, c'est que Jean-Paul II érige des diocèses. Mais après tout, il y a des diocèses orthodoxes à l'ouest aussi.
On a parlé beaucoup d'écologie et on n'arrête pas de parler d'environnement. On en a parlé encore plus en 2007, on a l'impression, avec la conférence de Bali. Le Vatican a eu des discours assez forts aussi. Alors justement, est-ce que cette année a marqué une rupture? Quel est votre regard là-dessus, sur cette question-là?
Ce n'est pas un discours nouveau dans l'Église catholique. Car si on se reporte aux déclarations de Jean-Paul II sur le problème écologique, on s'aperçoit qu'il a multiplié les déclarations, dont certaines étaient même violentes, extrêmement radicales, dans leur critique du comportement des sociétés occidentales et du modèle économique global. Et Benoît XVI prolonge cette réflexion à sa manière, en la charpentant. Et il est effectivement très soucieux de la question. Lors de sa bénédiction du 25 décembre, place Saint-Pierre, il avait même dit que l'homme avait ses responsabilités dans les catastrophes naturelles qui sont souvent les conséquences de préoccupants désastres écologiques, je le cite, et il demande que, dans la gestion des ressources énergétiques de la planète, les pays technologiquement avancés doivent revoir leurs habitudes, je le cite, exagérées en matière de consommation liées au modèle actuel de développement. C'est un discours écologique, je dirais presque d'écologie politique. Alors je ne sais pas si on peut dire que Benoît XVI est le pape vert, parce que Jean-Paul II était tout aussi vert que lui. Et en réalité, la préoccupation environnementale est très présente dans la pensée de l'Église catholique depuis des dizaines d'années.
Concernant le dialogue interreligieux, il semble que 2007 ait été une année plus apaisée, on va dire, par rapport à l'année précédente. On se souvient évidemment de la polémique et des incompréhensions suite au discours de Ratisbonne.
Il y est allé en effet assez fort à Ratisbonne en posant la question du rapport entre la raison et l'islam, par rapport au rapport entre la raison et du judéo-christianisme, j'avais dit, ce discours va porter des fruits. Eh bien, les fruits, nous les avons eus sous les yeux cette année. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'intellectuels musulmans ont dit, mais le problème que pose Benoît XVI se pose en effet réellement en islam. Il faut relever le défi et progresser dans notre propre pensée musulmane pour mettre au clair les rapports entre la foi et la raison en régime islamique. Et il faut nouer un dialogue avec les catholiques, avec les chrétiens, sur cette base-là. Et on a vu venir au Vatican des stages de diplomates de haut niveau, pilotés par les jésuites de Rome, qui sont venus apprendre ce que c'était que la foi catholique, parce qu'ils ne le savaient littéralement pas. Et ils en sont repartis en disant, on n'aurait pas soupçonné que c'était comme ça. Et le fait est qu'il y a quelque chose qui est maintenant décoincé, grâce au coup d'éclat de Ratisbonne. Il y a maintenant un dialogue sur le fond entre intellectuels musulmans ouverts et intellectuels catholiques. C'est une chose qui n'existait pas avant.
2007, c'est aussi évidemment la publication de la seconde encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi. Quelle est la portée de cette encyclique selon vous ?
Si vous relisez le paragraphe 15 de Spe Salvi, il souligne la dimension sociale de l'espérance chrétienne. Il dit que l'espérance chrétienne a à voir avec l'édification du monde. Et en rappelant le rôle d'Augustin, auquel il tient beaucoup, le pape trace la voie au milieu des mutations du monde, dit-il. Il ne faut pas se crisper stérilement sur la défense de soi-disant garanties qui seraient en train de mourir. Il faut retrouver le fondement véritablement porteur, je le cite, de, dit-il, toutes les communautés de vie et de paix que la foi chrétienne a engendré successivement au cours de l'histoire. Et il s'agit de faire naître demain, dans un contexte entièrement nouveau qui sera sans précédent et loin de toutes les nostalgies, des communautés neuves, inspirées par notre foi, mais au bénéfice de la terre entière. Je crois que ça, c'est une dimension sociale de Spe Salvi qui n'a pas été assez mise en lumière. Même Spe Salvi, encyclique plus intellectuelle que la précédente, a une résonance sociale extrêmement forte. C'était l'occasion de montrer que l'Église est profondément présente au monde en raison de sa foi, en raison de sa théologie, en raison, oserais-je dire, de ses dogmes, et non pas malgré les dogmes, malgré la foi, malgré la théologie. Comme disait le document, répondre à la demande intellectuelle et spirituelle de nos contemporains, eh bien c'est ça la beauté de l'évangélisation, c'est en cela que nous sommes utiles au reste du monde. Et c'est au cours de cette année, je dirais que la planète chrétienne a progressé dans la compréhension de cela, grâce notamment à la pensée si claire, si précise et en même temps si humaine de Benoît XVI.
Quel serait votre bilan plus personnel sur cette année de Benoît XVI et sur le regard du pape sur cette année 2007 ?
D'un côté plus professionnel, puisque je suis journaliste de profession, on a pu constater tout au long de l'année toujours la vieille difficulté qu'il y a entre les grands médias et la foi catholique. Mais tout de même, on voit fonctionner de manière toujours aussi nette l'espèce de surprise qu'ils ont vis-à-vis des faits et gestes de Benoît XVI, qui les déconcerte toujours. Ils commencent toujours par tiquer les médias et ensuite à mieux regarder les textes, à mieux comprendre. Ils se disent, mais au fond, il y a beaucoup dans ce qu'il nous dit. Et cet homme est vraiment déroutant, il est vraiment profond, il est vraiment intéressant. Et ça, c'est extrêmement intéressant à voir fonctionner en tant que journaliste. Parmi les journalistes, l'effet Benoît XVI continue à s'exercer, contrairement peut-être à ce que l'on pourrait croire vu de l'extérieur. Mais vu de l'intérieur, il y a vraiment un effet Benoît XVI, y compris chez nous les journalistes.